Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'accueillir sur les ondes de Radio SBS en Australie, Nicolas Pleskov. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Et votre film sort sur le grand écran en Australie prochainement. C'est l'histoire de Jeanne qui a charge de rénover un manoir appartenant à la famille Daguerre. Mais je vais vous laisser nous raconter peut-être le scénario sans aller trop dans les détails, parce que il faut quand même encourager les gens à aller dans les salles de cinéma pour voir votre film.
Bien sûr. Écoutez, c'est l'histoire de Jeanne, qui est donc une jeune architecte très talentueuse et assez névrosée, qui se retrouve commissionnée pour aller refaire le manoir de César Daguerre, qui est un maître du jeu de société en France. Et une fois qu'elle arrive dans son manoir, qui est à son image, à savoir plein de jeux et très étranges, dans lequel toute sa famille est en pleine murder party, puisque c'est une grande famille de joueurs, le patriarche se retrouve assassiné, sauf que cette fois-ci, c'est pour de vrai. Et le meurtrier, qui est caché parmi tous les habitants du manoir, lance un grand jeu, un peu dangereux, au sein duquel ils pourront trouver des indices pour l'identifier. S'il ne joue pas, il meurt.
Et donc, le vendredi, c'est Murder Party, comme le titre du film, chez les Daguerre. C'est un genre de jeu, n'est-ce pas, pour faire du team building en famille?
Alors oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi pour plein d'autres raisons. C'est un jeu grandeur nature, c'est une sorte de Cluedo vivant dans lequel chacun interprète un personnage qui pourrait ou non être le coupable, sauf que dans le film, il se trouve qu'au milieu de ce faux jeu apparaît un vrai jeu. Donc ça peut être, oui, ça peut être du team building en famille, ça peut être entre amis, ça peut être entre collègues. Et ce qui est amusant, c'est que comme tous les jeux en live, ça multiplie les réactions des gens par 10, et que par rapport à un jeu de plateau, vous vous retrouvez avec au bout de 5 minutes des gens très très investis qui quand ils jouent le jeu à fond, vous emmènent dans des situations où on oublie complètement la réalité. Ouais.
Et comment décrivez-vous votre film? C'est un thriller, c'est une comédie, un film policier?
Bah, c'est une comédie policière. C'est un whodunit, qui est un mot qu'on utilise pour parler de ces films d'enquête à la Cluedo. C'est un genre que j'aime infiniment parce que ce genre de film, donc le whodunit, la comédie policière, permet d'à la fois parler de sujets souvent très profonds, parce qu'il y a un mort, donc il faut se retrouver tout autour de l'histoire d'un mort, et donc chacun est obligé de révéler ses vérités, ses secrets, et toutes les raisons qui ont fait qu'il pourrait être le meurtrier, et c'est donc des sujets qui peuvent être lourds, mais ce genre-là permet de le faire de façon extrêmement ludique et comédie. C'est un genre, c'est un film qui est très inspiré par des films comme Cluedo, le film, par des films comme Un cadavre au dessert, par des films comme Huit femmes de François Ozon, qui permettent de traiter deux sujets potentiellement lourds de façon hyper ludique, hyper comique. Et en fait, dans ce genre de film, rien n'est jamais grave. Ce qui compte, c'est juste de trouver le meurtrier. C'est vraiment un popcorn movie, dans le sens où on n'est pas là pour être inquiet du meurtre, avoir peur du meurtre, ou se demander mis mal à l'aise par ce qui se passe, on est plutôt là pour rire. Et c'est vrai que c'est le whodunit est le seul genre qui permet de rire de choses graves comme ça, en tout cas.
Parlez du décor que vous avez voulu recréer. Il y a beaucoup de couleurs de l'époque des années 50.
Oui, tout à fait. J'ai voulu, comme c'est un film qui se passe dans l'univers du jeu, qui est mis en place par une famille de jeu avec un meurtrier qui lui-même met en place un jeu, j'ai voulu que le film soit extrêmement ludique. Et donc, on ait l'impression d'entrer sur un plateau de jeu. Et pour moi, ça supposait un décor et des costumes qui soient très loin de la réalité et qui nous mettent tout de suite dans un univers de BD, un univers pop et un univers très artificiel. Et le cinéma en technicolor des années 50 est pour ça une référence au-delà du fait que je trouve ça magnifique, c'est une référence qui semblait très cohérente parce que c'est un cinéma de studio qui ne fait pas semblant d'être de ne pas être du cinéma. C'est un cinéma qui assume une part d'artificiel. Quand on voit les actrices filmées dans les Hitchcock des années 50, il y a trois ombres derrière elles, il y a des décors très plats filmés en coupe focale qui font que on a vraiment l'impression d'être dans un univers complètement irréaliste. Et du décor au costume, même à la direction d'acteur, j'ai voulu jouer cette artificialité-là, ouais.
Et donc, c'était
une époque intemporelle aussi.
Et c'était un choix personnel en ce qui concerne les couleurs attribuées à chaque interprète?
Ouais, bien sûr. Ça a été une conversation avec certains et un choix plus direct pour d'autres. Je savais dès le début, je voulais que Jeanne, l'héroïne, ait une robe bleu clin, parce que c'est une couleur un peu sévère et qui va bien avec, en tout cas, le côté plutôt assez introverti et sombre du un peu coincé du personnage au début. Théo, je voulais qu'il soit rouge parce qu'il incarne une forme de désir, une forme de passion. Après, il était important puisque je voulais qu'on ait l'impression que chaque joueur soit un pion, un peu comme les personnages du Cluedo, où on se retrouve avec Mademoiselle Rose, Professeur Violet, Colonel Moutarde, qui ont chacun donc leur couleur. Après, c'est aussi c'est en fonction de choses qui leur allaient, tout simplement. Le vert allait divinement bien à la rousse Sarah Stern, le rose allait très bien à Pascal Arbillot. Donc en fait, pour les deux personnages principaux, c'était vraiment déjà réfléchi. Et pour les autres, j'ai aussi travaillé en fonction de ce qui leur allait, tout simplement.
Et est-ce que vous avez voulu laisser le champ un peu libre pour que les comédiens puissent s'amuser à jouer leur rôle?
Alors oui et non, c'est-à-dire que en fait, ce qui était important, c'était qu'ils aient un canevas au sein duquel ils puissent s'exprimer après, mais il fallait qu'ils aient ce canevas, qu'ils sachent vraiment dans quel univers précis on était. C'est une comédie qui a un registre très particulier, quelque chose de burlesque, par moments presque grotesque. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment, voire très enfantin. Et il fallait d'abord que je leur explique très précisément ce que je voulais et dans quel monde on était. C'est une théâtralité qui en même temps ne devait pas aller trop vers le boulevard ni trop vers le naturalisme d'un autre côté. Donc quelque chose qui était vraiment un registre assez particulier. Je leur ai donné à regarder les films de Blake Edwards, certains films de François Ozon là encore. Et une fois qu'ils avaient bien compris le registre de jeu très précis au sein duquel je voulais qu'ils soient, je les ai laissés composer quand j'ai compris qu'ils avaient compris. Après, au sein de ça, je les ai laissés proposer. J'aurais été bien prétentieux de ne pas laisser des acteurs de cette trempe-là proposer des choses. Donc voilà, ça a été une collaboration entre vraiment leur dire voilà la frontière haute de comédie, la frontière basse de comédie, et les laisser justement s'exprimer dans ce qu'ils pouvaient proposer, puisque c'était un monde qui était suffisamment fou pour laisser aller assez loin tout le monde. Ça aurait été dommage de s'en priver.
Et quand vous écriviez le scénario, est-ce que vous aviez une idée des comédiens en tête qui allaient jouer les personnages que vous avez créés?
Alors, comme c'est un premier film qui était il y a un truc où quand on écrit un film, et particulièrement un premier film, on peut jamais avoir la certitude à 100% que le film se fera. Et donc, au début, j'étais vraiment focalisé sur le scénario, et puis surtout, je voulais pas imposer un imaginaire à mon écriture, dans le sens où du fait que c'était un pré-film, je ne savais pas du tout auquel type de comédien je pourrais avoir accès. Je voulais pas m'imposer de rêver à quelqu'un trop fort pendant les 5 années d'écriture pour me retrouver déçu à la fin. Donc en fait, ça aurait peut-être trop conditionné le personnage en lui-même. Et je voulais vraiment d'abord créer les personnages et après les donner à des acteurs. Donc en gros, non, j'ai réfléchi qu'à la toute fin. J'avais des envies, évidemment. Je savais que pour le rôle de César, je voulais quelqu'un de très charismatique et que je voulais quelqu'un qui soit le plus possible une icône pour incarner ce personnage-là, et je me suis mis à rêver à Eddie Mitchell, évidemment, très tard. Non, sur le moment, non, j'avais des idées, j'avais des références de personnages qui venaient de beaucoup de films que j'avais pu voir, de livres que j'avais pu lire, des Agatha Christie, des choses comme ça, mais des acteurs en eux-mêmes, non, j'y ai pensé qu'à la fin.
Et en ce qui concerne la bande son du film, j'ai lu quelque part que vous aviez réuni plus de 70 musiciens pour créer cette bande sonore, c'est ça?
Oui, ouais, c'est ça. En fait, elle a été composée, c'était un vrai tour de force, parce qu'elle a été composée par Amaury Chaboty, qui est un grand compositeur français, et je lui ai pas facilité la tâche, parce que je lui ai dit tout de suite, je veux beaucoup de musique, très orchestrale, très narrative et très et avec comme référence absolue Bernard Herrmann, qui était le musicien d'Hitchcock. Je voulais vraiment ce type de musique extrêmement connotée au polar des années 50 pour là encore 50-60 même pour là encore nous emmener dans un univers très très loin de notre réalité actuelle et faire des clins d'œil à ce type de polar là. Et à ce type de, je dirais, de premier degré dans la musique qui accompagnait complètement les personnages et les intrigues qu'on fait plus trop aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était très dur parce que on était dans l'économie d'un premier film. Donc en fait, il a composé l'intégralité d'abord en programmation sur un ordinateur et après il est allé en enregistrer une grande partie à Budapest avec un grand orchestre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est une chance pour moi parce que voilà, c'est un luxe pour un premier film de pouvoir avoir une telle bande sonore et c'est beaucoup grâce à Maurice Chabouti. Ouais.
Et Nicolas Pleskov, que diriez-vous au public australien pour l'encourager à aller voir Murder Party? Il est déjà sorti, je rappelle, lors de l'Alliance française French Film Festival en mars dernier.
Eh bien, je leur dirais que c'est un film profondément ludique que j'ai voulu jouer à tous les niveaux. C'est un film sur le jeu, un film dans le monde du jeu, un film lui-même qui est un jeu et au sein duquel le spectateur est invité à participer. D'abord en tant que spectateur et puis très vite en tant que joueur lui-même, mais je ne peux pas révéler exactement pourquoi, il verra bien. Il y a un moment de bascule dans le film qui fait que le spectateur devient tout à coup celui qui va jouer avec les personnages. Plus que... Voilà, je m'arrête là.
Ok, d'accord. Il faut aller dans les salles pour voir le film.
Exactement.
Murder Party, c'est votre premier long métrage. Est-ce que je peux poser cette question sur vos futurs projets?
Oui, bien sûr. Bah, il y a plusieurs choses qui sont en préparation. Voilà, je vais rester dans le cinéma de genre. Voilà, il y a un film qui est en écriture et une série également qui est en écriture.
Ouais. Nicolas Pleskov, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie et bonne continuation.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.